VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 19h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, le premier vice-président de l'Assemblée nationale burundaise, Agathon Rwasa, dénonce un complot politique et des menaces graves d'atteinte à sa sécurité physique par certaines autorités burundaises, sans préciser lesquelles. M. Rwasa, un ancien rebelle des Forces nationales de libération, a fini deuxième aux dernières élections de juillet 2015 sans y avoir participé. Devenu numéro 2 du Parlement burundais, il affirme avoir des preuves palpables de ce qu'il qualifie de machination orchestrée par les hommes au pouvoir à Bujumbura. Mais les autorités burundaises nient ces allégations. On écoute Agathon Rwasa.
De retour d'une mission à l'étranger, Agathon Rwasa a déclaré que c'est un haut responsable politique burundais qui voudrait son élimination physique, tout en n'osant pas pointer du doigt le nom de ces personnalités politiques qui seraient derrière son élimination. Agathon Rwasa, l'ancien rebelle, a indiqué aujourd'hui que ces informations ne sont que véridiques. Pour Agathon Rwasa, des voitures bien connues de responsables civils et policiers le traquent nuit et jour, changeant même des plaques d'immatriculation. Ces sources d'informations les plus crédibles confirme, selon lui, que certains services haut placés projetteraient de l'éliminer car il reste un élément gênant. Mais les autorités de Bujumbura réfutent ces allégations. Agathon Rwasa a rappelé qu'il n'est pas derrière les gribouillages que font des centaines d'élèves du secondaire sur les photos du président Pierre Nkurunziza. Après les dernières élections au Burundi, que la majorité des opposants politiques avaient boycotté, la Commission électorale nationale indépendante avait proclamé que son parti FNL était arrivé deuxième. Agathon Rwasa est toujours actuellement premier vice-président de l'Assemblée nationale burundaise. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Centrafrique, les effectifs de militaires français sur place sont ramenés à 350 soldats, ce qui marque la fin de l'opération Sangaris. Les détails avec Idriss Fall.
L'état-major français a annoncé dans un tweet que désormais Sangaris constitue une force de réserve tactique de 350 soldats au profit des 12 500 casques bleus. Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, avait déjà annoncé la fin de l'opération dans le courant 2016. La France avait mobilisé près de 2 500 soldats en décembre 2013 au plus fort des violences intercommunautaires en RCA. Les milices anti-Balaka, majoritairement chrétiennes, et les ex-rebelles musulmans de la Séléka avaient mis le pays à feu et à sang. L'intervention française et le déploiement des casques bleus de la MINUSCA ont permis de faire retomber les violences. Sangaris a été ramené à 900 hommes peu avant l'élection de Faustin Archange Touadéra en février, qui était censé marquer la fin de la transition. Cependant, la réputation de l'armée française a été entachée par des accusations d'abus sexuels et de sévices physiques en Centrafrique.
On reste en RCA. Les 6 policiers pris en otage par des hommes armés au PK5 à Bangui n'ont pas encore recouvré la liberté. Ils sont encore aux mains de leurs ravisseurs. Des détails avec Clarisse Yapelego, rédactrice du magazine économique et politique L'Innovation Afrique à Bangui. On l'écoute au micro de Félix Yepassis Zimbro.
Alors, les 6 policiers pris en otage, ils sont toujours entre les mains de leurs détracteurs. Ce matin, la MINUSCA et les autorités de la place se sont rendus au kilomètre 5 pour négocier la libération de ces 6 policiers en otage. Mais ça n'a pas marché parce que bon, les autochtones étaient très remontés parce que dans la nuit d'hier à ce matin, il y a eu beaucoup de morts quand même au kilomètre 5. Et donc, les habitants de ce quartier se sont manifestés. Ils ont voulu marcher sur la MINUSCA, venir vers la MINUSCA pour manifester, dénoncer ce qui se passe au kilomètre 5, dénoncer la présence de ces groupes armés qui sévissent dans leur quartier.
Mais quelles sont les revendications de ces ravisseurs?
Alors, les revendications pour l'instant restent top secret. Je pense que la MINUSCA le sait, mais ça n'a pas été révélé.
Clarisse Yapelego, rédactrice du magazine L'Innovation Afrique à Bangui.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, le Mali veut changer sa constitution. Un comité d'experts composé uniquement de Maliens a été mis en place. À cet effet, les précisions de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est l'avocat Maître Mamadou Ismaël Konaté qui est le président du comité. Il n'a que 6 mois pour présenter son rapport. Le travail interne à cours a permis d'élaborer les documents de base tels que la note d'orientation, la note méthodologique, la segmentation de la constitution, la synthèse des travaux de commission précédemment mise en place pour les réformes non abouties, l'élaboration des thèmes et opinions des jurisconsultes, la mise en place des commissions d'écoute des opinions des jurisconsultes, l'analyse des expériences d'ailleurs. Ce comité a l'avantage d'avoir en son sein des juristes et des personnes et ressources de qualité. Ce comité a la lourde responsabilité d'accomplir une mission noble et combien importante pour l'avenir du Mali, car il s'agit de la loi fondamentale de la République. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Libye, poursuite des combats à Sirte, au moins 34 membres des forces pro-gouvernementales ont été tués et une centaine blessés hier dans les affrontements avec le groupe État islamique assiégé dans son fief libyen. Le bilan des pertes des djihadistes n'est pas connu. La guerre contre le groupe État islamique en Syrie, Raqqa, fief de Léhi dans le pays, a été la cible de frappes aériennes qui ont fait au moins 25 morts et des dizaines de blessés. Et ce, au lendemain d'une offensive djihadiste ayant chassé les forces du régime du président Bachar Assad de cette province du Nord. Le point avec Nathalie Barge.
Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, la ville a été ce mercredi de nouveau la cible de raids menés apparemment par la coalition. Les aviations syriennes, russes et celles de la coalition internationale anti-djihadiste, dirigée par les États-Unis, mènent régulièrement des raids contre les positions du groupe État islamique. Les raids de mardi surviennent au lendemain d'une défaite cuisante de l'armée syrienne à 7 km de l'aéroport de Tabqa, dans le désert de la province de Raqqa. Les forces du régime, appuyées par l'aviation russe, avaient lancé le 3 juin une offensive pour s'emparer de la ville clé de Tabqa, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Raqqa. Selon l'OSDH, elles ont perdu plus de 40 hommes dans la contre-attaque éclair des djihadistes.
Référendum de demain sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Le compte à rebours a commencé en territoire britannique et c'est jeudi. Le jour J pour les électeurs qui se rendront aux urnes pour décider d'un possible retrait de Londres de l'Union européenne. Éric Manirakiza.
Les partisans d'une sortie de l'Union européenne, comme ceux qui veulent rester, sont fortement mobilisés pour tenter de convaincre les indécis. Près de 1300 chefs d'entreprise se sont invités dans la campagne pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Le Brexit, British Exit, en mise en exergue une fracture générationnelle. Les plus jeunes, dans leur majorité, veulent rester, tandis que les plus âgés défendent la sortie. Le thème de l'immigration est très utilisé par les partisans du out pour reprendre le contrôle des frontières et stopper l'afflux des migrants. De son côté, le Premier ministre David Cameron a exhorté ses compatriotes à choisir le maintien pour eux-mêmes, leur famille et l'avenir du Royaume-Uni. Ce référendum plonge dans l'angoisse Bruxelles, les milieux économiques et la quasi-totalité des dirigeants de la planète. Pour l'ancien ministre suédois des Affaires étrangères Carl Bildt, le Brexit serait l'événement le plus lourd de conséquences en Europe depuis la chute du mur de Berlin.
On passe maintenant à l'actualité aux États-Unis. 2 hommes ont été reconnus coupables hier par un tribunal américain de tentative d'aide à l'organisation djihadiste État islamique. Il risque plusieurs dizaines d'années de prison. Les intéressés sont Nader El-Ouzayel et Muhammad Badawi, 2 jeunes âgés de 25 ans qui sont originaires d'Anaheim, près de Los Angeles en Californie. Ils avaient été arrêtés en mai l'an dernier alors qu'El-Ouzayel s'apprêtait à embarquer dans un avion pour la Turquie. Et puis on termine avec l'Égypte. L'Égypte, où le gouvernement a fait appel de la décision d'un tribunal administratif d'annuler la rétrocession à l'Arabie Saoudite de 2 îlots inhabités de la mer Rouge. Le Caire s'engage à fournir des documents et des cartes pour maintenir le transfert des 2 territoires à Riyad. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.